Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM. Bonjour à toutes et à tous. Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Luxe, calme,
C'était l'invitation au voyage de Charles Baudelaire, mise en musique par Duparc et interprétée par Gérard Souzet. Voici 167 ans, le 5 juillet 1857, dans le Figaro, Gustave Bourdin, le gendre d'Hippolyte de Villemessant, le directeur de ce journal, Gustave donc écrit à propos des Fleurs du Mal, sorties le 25 juin 1857. Monsieur Charles Baudelaire est depuis une quinzaine d'années un poète immense pour un petit cercle d'individus dont la vanité en le saluant Dieu, ou à peu près, faisait une assez bonne spéculation. Ils se reconnaissaient inférieurs à lui, c'est vrai, mais en même temps ils se proclamaient supérieurs à tous les gens qui niaient ce messie. Il fallait entendre ces messieurs apprécier les génies à qui nous avons voué notre culte et notre admiration. Hugo était un cancre, Béranger un cuistre, Alfred de Musset un idiot et Madame Sand une folle. Mais on ne choisit ni ses amis ni ses admirateurs et il serait par trop injuste d'imputer à Monsieur Baudelaire des extravagances qui ont dû plus d'une fois lui faire lever les épaules. Il n'a eu qu'un tort à nos yeux, celui de rester trop longtemps inédit. Il n'avait encore publié qu'un compte-rendu de salon très vanté par les docteurs en esthétique et une traduction d'Edgar Poe. Depuis 3 fois 5 ans, on attendait donc ce volume de poésie. On l'a attendu si longtemps qu'il pourrait arriver quelque chose de semblable à ce qui se produit quand un dîner tarde trop à être servi. Ceux qui étaient les plus affamés sont les plus vite repus. L'heure de leur estomac est passée. Il n'en est pas de même de votre serviteur. Pendant que les convives attendaient avec une si vive impatience, il dînait ailleurs, tranquillement et sainement. Et il arrivait l'estomac bien garni pour juger seulement du coup d'œil. Ce serait à recommencer que j'en ferais autant. J'ai lu le volume. Je n'ai pas de jugement à prononcer, pas d'arrêt à rendre. Mais voici mon opinion que je n'ai la prétention d'imposer à personne. On ne vit jamais gâter si follement d'aussi brillante qualité. Il y a des moments où l'on doute de l'état mental de M. Baudelaire. Il y en a où l'on n'en doute plus. C'est la plupart du temps la répétition monotone et préméditée des mêmes mots, des mêmes pensées. L'odieux y coudoie l'ignoble, le repoussant s'y allie à l'infect. Jamais on ne vit mordre et même mâcher autant de seins dans si peu de pages. Jamais on assista à une semblable revue de démons, de fœtus, de diables, de chloroses, de chats et de vermines. Ce livre est un hôpital ouvert à toutes les démences de l'esprit, à toutes les putridités du cœur. Encore, si c'était pour les guérir, mais elles sont incurables. Un vers de M. Baudelaire résume admirablement sa manière. Pourquoi n'en a-t-il pas fait l'épigramme des Fleurs du Mal ? Je suis un cimetière abhorré de la lune. Et au milieu de tout cela, 4 pièces, le reniement de Saint-Pierre, puis Lesbos et 2, qui ont pour titre les femmes damnées, 4 chefs-d'œuvre de la passion, d'art et de la poésie. Peut le dire, il le faut, on le doit. Si l'on comprend qu'à 20 ans l'imagination d'un poète puisse se laisser entraîner à traiter de semblables sujets, rien ne peut justifier un homme de plus de 30 ans d'avoir donné la publicité du livre à de semblables monstruosités. En mettant l'accent sur l'immoralité des Fleurs du Mal, cet imbécile déclencha la machine judiciaire.
Les images
Vous venez d'entendre La vie antérieure de Charles Baudelaire, mis en musique par Henri Duparc et interprété encore une fois par Gérard Souzet. Le 7 juillet de cette même année, la direction de la Sûreté publique, une branche du ministère de l'Intérieur, saisit le parquet du délit d'outrage à la morale publique commis par l'auteur des Fleurs du Mal. Le 12 juillet, un autre imbécile, Jules Abance, réitère, toujours dans le Figaro, un jugement de petit bourgeois suiveur. Avec M. Charles Baudelaire, c'est de cauchemar qu'il faut parler. Les Fleurs du Mal qu'il vient de publier sont destinées, suivant lui, à chasser l'ennui qui rêve d'échafaud en fumant son houka. Mais l'auteur n'a pas pris garde qu'il remplaçait le bâillement par la nausée. Lorsqu'on ferme le livre après l'avoir lu tout entier, comme je viens de le faire, il reste dans l'esprit une grande tristesse et une horrible fatigue. Tout ce qui n'est pas hideux y est incompréhensible. Tout ce que l'on comprend est putride, suivant la parole de l'auteur. J'en excepterai pourtant les 5 dernières strophes de la pièce intitulée « Bénédiction, élévation et donjouant aux enfers ». De tout le reste, en vérité, je n'en donnerai pas un piment. Et je n'aime pas le poivre. Toutes ces horreurs de charniers étalés à froid, ces abîmes d'immondices fouillés à deux mains et les manches retroussées, devaient moisir dans un tiroir maudit. Maison croyait au génie de M. Baudelaire. Il fallait exposer l'idole longtemps cachée à la vénération des fidèles. Et voilà qu'au grand jour, l'aigle s'est transformé en mouche. L'idole est pourrie et les adorateurs fuient en se bouchant le nez. Il en coûte assez cher de jouer au grand homme à huis clos et de ne savoir pas approcher propos brûlés, ses élucubrations martelées à froid dans la rage de l'impuissance. On en arrive à se faire prendre au mot lorsqu'on dit « Moi, mon âme est fêlée ». Et lorsqu'en ses ennuis, elle veut de ses chants peupler l'air froid des nuits, il arrive souvent que sa voix affaiblie semble le râle épais d'un blessé qu'on oublie, au bord d'un lac de sang, sous un grand tas de morts, et qui meurt, sans bouger, dans d'immenses efforts. Comme c'est vrai tout cela, et comme je donne raison à Monsieur Baudelaire lorsqu'il se juge ainsi. Allons, un requiem par là-dessus, et qu'on n'en parle plus. À cette époque, que l'on surnommait la fête impériale, la frivolité, l'adultère, mis en scène dans des vaudevilles, où des opérettes faisaient fureur. Tant Baudelaire choquait, comme avait choqué quelques mois auparavant Flaubert avec Madame Bovary. Mais son avocat, Jules Sénard, avait réussi à mettre en avant la moralité du roman, défendant l'idée qu'Emma Bovary était punie pour ses fautes. Tandis que le procureur impérial, Ernest Pinard, un imbécile notoire lui aussi, y voyait une insoutenable immoralité. Je rappelle que Flaubert avait été jugé sous le même chef d'inculpation que Baudelaire. Flaubert en avait tiré une publicité inespérée et du jour au lendemain, il fut connu. Voici ce qu'il écrivait à son ami, l'éditeur de musique, Maurice Schlesinger. 11 février 1957. Mon cher Maurice, merci de votre lettre. L'affaire a été dure à enlever, mais enfin j'ai eu la victoire. J'ai reçu de tous mes confrères des compliments très flatteurs et mon livre va se vendre d'une façon inusitée pour un début. Mais je suis fâché de ce procès. En somme, cela dévie le succès. Et je n'aime pas autour de l'art les choses qui lui sont étrangères. C'est à tel point que tout ce tapage me dégoûte profondément et j'hésite à mettre mon roman en volume. J'ai envie de rentrer pour toujours dans la solitude et le mutisme dont je suis sorti, de ne rien publier pour ne plus faire parler de moi. Car il me paraît impossible, par le temps qui court, de rien dire. L'hypocrisie sociale est tellement féroce. Les gens du monde les mieux disposés pour moi me trouvent immoral, impie. Je ferais bien à l'avenir de ne pas dire ceci, cela, de prendre garde, etc., etc. Ah, comme je suis embêté, cher ami. Ces extraits de lettres me donnent l'envie de chanter avec les poppies. Non, non, rien n'a changé. «
C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en mettant ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout, tout a continué.
Avec nous et pourtant bien des gens se sont mis à genoux pour prier,
oui pour prier,
pour prier,
oui pour prier.
Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons, j'ai pleuré,
oui j'ai pleuré,
j'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer que non, non, rien n'a changé,
tout, tout a continué.
Je pense à l'enfant entouré de soldats, moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps.
Oui, tout le temps.
Tout le temps.
Oui, tout le temps.
Moi je pense à
non,
tout ça,
non,
mais je ne devrais
non,
pas toutes
non,
ces
non,
choses-là.
Non,
ne me regarde
non,
pas et pourtant.
Oui, et pourtant.
Et pourtant. Je chante, je chante.
Que j'avais demandé, si l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, si l'histoire d'un amour que je croyais vivant, si l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en mettant ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué.
Baudelaire eut lui aussi de la publicité, mais son avocat ne réussit pas à convaincre les juges. Le 17 juillet 1857, le parquet fait connaître son accord et requiert une information contre Baudelaire et ses éditeurs, ainsi que la saisie des exemplaires. Baudelaire, prévenu par le comte de Lille, écrit à son éditeur Poulet-Malassi : « Vite, cachez, mais cachez bien toute l'édition. Vous devez avoir 900 exemplaires en feuilles. » Il y en avait encore 100 chez Lanier. « Ces messieurs ont paru, fort étonnés que je voulusse en sauver 50. Je les ai mis en lieu sûr et j'ai signé un reçu. Reste donc 50 pour nourrir le Cerbère justice. Voilà ce que c'est que d'envoyer des exemplaires au Figaro. Je suis persuadé que cette mésaventure n'arrive que par suite de l'article du Figaro et de bavardages absurdes. La peur a fait le mal. Je viens de voir Lanier et Victor, plus couillons que la lune. Ils se croient déshonorés et ils ont poussé la platitude jusqu'à faire la remise de librairie à monsieur l'inspecteur général de la presse pour le séduire. » Le 14 juillet 57, le journaliste et homme de lettres Édouard Thierry donna un article au journal Le Moniteur Universel, journal gouvernemental, pour défendre les fleurs du mal. C'est un très beau texte qui bouleversa Baudelaire et le jour même de la parution, il envoya à Édouard Thierry cette lettre. « Je ne puis vous offrir aujourd'hui, pour vous témoigner ma gratitude, que ce dernier exemplaire sur papier de choix. Avant de vous connaître, je n'avais jamais bien compris la puissance de cette méthode souple et onduleuse qui cache et qui montre, et qui n'est éclatante que pour les gens d'esprit. Votre article est plein à la fois de spiritualité et de politique. Combien je vous remercie d'avoir insisté sur cette immense tristesse, qui est en effet la seule moralité du volume. Sans vous, personne n'aurait peut-être osé parler de mon mérite littéraire, et tout le monde n'aurait parlé que de l'horreur des sujets. Vos éloges sont trop grands, mais vous les avez sans doute jugés nécessaires. Je vous serre la main avec tout le feu d'un homme qui sait ce qu'il vous doit. Pour bien comprendre l'émotion de Baudelaire, voici quelques extraits de cet article. Je cherche à rendre l'impression du livre. Je tâche d'être compris, plutôt que je n'explique ma pensée. Le feuilleton parle pour tout le monde. Un livre comme Les Fleurs du Mal ne s'adresse pas à tous ceux qui lisent le feuilleton. En donnerais-je une idée plus précise ? En rattacherais-je la forme au souvenir de quelque forme littéraire ? Je la rattache, et je le rattache lui-même, à l'ode que Mirbeau a écrite dans le donjon de Vincennes. Il en a par moments l'audace, l'hallucination sombre, les beautés formidables, et toujours la tristesse. C'est la tristesse qui le justifie et l'absout. Le poète ne se réjouit pas devant le spectacle du mal. Il regarde le vice en face, mais comme un ennemi qu'il connaît bien et qu'il affronte. S'il le craint encore, ou s'il a cessé de le craindre, je ne sais. Mais il parle avec l'amertume d'un vaincu qui raconte ses défaites. Il ne dissimule rien, il n'a rien oublié. Dans un temps où la littérature indiscrète a raconté au public les mœurs de la vie de Bohème, les aventures de la baronne d'Ange et celles de Marguerite Gautier, il est venu, après les amusants conteurs, dire à son tour l'idylle à travers champs, l'églogue à côté d'une bête morte, le boudoir de la courtisane assassinée, et personne ne viendra plus après lui. Il a écrit la vérité dernière. Il ne s'est pas menti à lui-même. Il n'a menti à personne. Les fleurs du mal ont un parfum vertigineux. Il les a respirées. Il ne calomnie pas ses souvenirs. Il aime son ivresse en se la rappelant. Mais son ivresse est triste à faire peur. Il n'accuse pas autrement. Il ne se plaint pas autrement. Il est triste. Du reste, et c'est par là que je termine, j'ai déjà rapproché de Mirabeau l'auteur des fleurs du mal. Je le rapproche de Dante. Et je réponds que le vieux Florentin reconnaîtrait plus d'une fois dans le poète français sa fougue, sa parole effrayante, ses images implacables et la sonorité de son vers d'airain. Je cherchais à louer Charles Baudelaire, comment le louerais-je mieux ? Je laisse son livre et son talent sous l'austère caution de Dante.
Ces chaudes fêtes que le vent du matin m'apporte par instant serre mon cœur, trouble ma tête. Ils sont ici, sous les rameaux flottants, je laisse livrer dans leur guité si tendre. Ils échangeaient des mots pleins de douceur. C'était mon frère et puis ma sœur. Je retenais mon souffle afin de les entendre. Ils sont heureux. Aux temps à jamais effacés, ou comme j'avais l'âme pure, oh, cette sereine nature.
Marie, mon âme surprise a sali.
Vous venez d'entendre le poème de Baudelaire, Harmonie du soir, mis en musique par Claude Debussy et interprété ici par le ténor Daniel McGrew. Un autre article justificatif, mis lui aussi dans le dossier, fut écrit le 24 juillet 1857 par Barbet de Révilly lui-même. En voici quelques extraits. S'il n'y avait que du talent dans les fleurs du mal de M. Charles Baudelaire, il y en aurait certainement assez pour fixer l'attention de la critique et captiver les connaisseurs. Mais dans ce livre difficile à caractériser tout d'abord, et sur lequel notre devoir est d'empêcher toute confusion et toute méprise, il y a bien autre chose que du talent pour remuer les esprits et les passionnés. On sait l'impression qu'elles produisirent alors. À la première apparition, à la première odeur de ces fleurs du mal, comme il les nomme, de ces fleurs, il faut bien le dire, puisqu'elles sont les fleurs du mal, horribles de fauve éclat et de senteur, on cria de tous les côtés à l'asphyxie et que le bouquet était empoisonné. Les moralités délicates disaient qu'il allait tuer comme les tubéreuses tuent les femmes en couche. Et il tue en effet, de la même manière. C'est un préjugé. À une époque aussi dépravée par les livres que l'est la nôtre, les fleurs du mal n'en feront pas beaucoup. Nous osons l'affirmer. Et elles n'en feront pas non seulement parce que nous sommes les mithridates des affreuses drogues que nous avons avalées depuis 25 ans, mais aussi pour une raison beaucoup plus sûre, tirée de l'accent, de la profondeur d'accent d'un livre qui, selon nous, doit produire l'effet absolument contraire à celui que l'on affecte de redouter. N'en croyez le titre qu'à moitié. Ce ne sont pas les fleurs du mal que le livre de M. Baudelaire. C'est le plus violent extrait qu'on ait jamais fait de ces fleurs maudites. Or, la torture que doit produire un tel poison sauve des dangers de son ivresse. Telle est la moralité inattendue, involontaire peut-être, mais certaine qui sortira de ce livre cruel et osé, dont l'idée a saisi l'imagination d'un artiste, révoltant comme la vérité qu'il l'est souvent, hélas, dans le monde de la chute. Ce livre sera moral à sa manière. Et ne souriez pas, cette manière n'est rien moins que celle de la toute-puissante Providence elle-même qui envoie le châtiment après le crime, la maladie après l'excès, le remords, la tristesse, l'ennui, toutes les hontes et toutes les douleurs qui nous dégradent et nous dévorent pour avoir transgressé ses lois. Le poète des fleurs du mal a exprimé, les uns après les autres, tous ces faits divinement vengeurs. Sa muse est allée les chercher dans son propre cœur entrouvert, et elle les a tirés à la lumière d'une main aussi impitoyablement acharnée que celle du Romain qui tirait hors de lui ses entrailles. Après avoir dit cela, ce n'est pas nous qui affirmerons que la poésie des fleurs du mal est de la poésie personnelle. Sans doute étant ce que nous sommes, nous portons tous, et même les plus forts, quelques lambeaux saignants de notre cœur dans nos œuvres, et le poète des fleurs du mal est soumis à cette loi, comme chacun de nous. Ce que nous tenons seulement à constater, c'est que contrairement au plus grand nombre des lyriques actuels, si préoccupés de leur égoïsme et de leur pauvres petites impressions, la poésie de M. Baudelaire est moins l'épanchement d'un sentiment individuel qu'une ferme conception de son esprit. Quoique très lyrique d'expression et d'élan, le poète des fleurs du mal est au fond un poète dramatique. Il en a l'avenir. Son livre actuel est un drame anonyme dont il est l'acteur universel. Et voilà pourquoi il ne chicane ni avec l'horreur, ni avec le dégoût, ni avec rien de ce que peut produire de plus hideux la nature humaine corrompue. Baudelaire constitua un dossier pour son procès, avec ses deux articles, plus deux autres, ainsi que des notes, dont une dans laquelle on lit. Monsieur de Révilly, un écrivain absolument catholique, autoritaire et non suspect, portait au pays auquel il est attaché un article sur les fleurs du mal, et il lui a été dit qu'une consigne récente défendait de parler de Monsieur Charles Baudelaire dans le pays. Il faut dire que ce journal était conservateur et un organe officieux du régime bonapartiste. Le jeudi 20 août eut lieu le procès. Ernest Pinard, le fameux procureur impérial, commença ainsi son réquisitoire. Poursuivre un livre pour offense à la morale publique est toujours chose délicate. Si la poursuite n'aboutit pas, on fait à l'auteur un succès presque un piédestal. Il triomphe et on a assumé vis-à-vis de lui l'apparence de la persécution. J'ajoute que dans l'affaire actuelle, l'auteur arrive devant vous protégé par des écrivains de valeur, des critiques sérieux, dont le témoignage complique encore la tâche du ministère public. Et cependant, messieurs, je n'hésite pas à la remplir. Ce n'est pas l'homme que nous avons à juger, c'est son œuvre. Ce n'est pas le résultat de la poursuite qui me préoccupe, c'est uniquement la question de savoir si elle est fondée. Charles Baudelaire n'appartient pas à une école, il ne relève que de lui-même. Son principe, sa théorie, c'est de tout peindre, de tout mettre à nu. Il fouillera la nature humaine dans ses replis les plus intimes, il aura pour la rendre des tons vigoureux et saisissants, il l'exagérera surtout dans ses côtés hideux, il la grossira outre mesure afin de créer l'impression, la sensation. Il fait ainsi, peut-il dire, la contrepartie du classique, du convenu, qui est singulièrement monotone et qui n'obéit qu'à des règles artificielles. Le 25 août, Baudelaire écrivait à son ami Gustave Flaubert pour l'informer de sa condamnation. « Cher ami, je vous écris à la hâte un petit mot avant 5 heures, uniquement pour vous prouver mon repentir de n'avoir pas répondu à vos affectueux sentiments. Mais si vous saviez dans quel abîme d'occupation puérile j'ai été plongé, et l'article sur Madame Bovary reculé encore de quelques jours. » Quelle interruption dans la vie qu'une aventure ridicule. La comédie s'est jouée jeudi. Cela a duré longtemps. Enfin, 300 francs d'amende, 200 pour les éditeurs, suppression des numéros 20, 30, 39, 80, 81 et 87. Je vous écrirai longuement cette nuit. Tout à vous, vous le savez. Charles Baudelaire. L'émission arrive à sa fin. Et je ne peux m'empêcher de penser que Baudelaire, sous notre régime bonapartiste, aurait eu la bonne société sur le dos. Je lui laisse les dernières paroles qui sont toujours d'actualité. Qu'est-ce que cette morale prude, bégueule, taquine et qui ne tend à rien moins qu'à créer des conspirateurs, même dans l'ordre si tranquille des rêveurs. Cette morale-là irait jusqu'à dire « Désormais, on ne fera que des livres consolants et servant à démontrer que l'homme est né bon et que tous les hommes sont heureux. » Abominable hypocrisie. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir sur La cloche fêlée, poème de Baudelaire dit par Yvon Jean.
La cloche fêlée. Il est amer et doux, pendant les nuits d'hiver, d'écouter près du feu qui palpite et qui fume, les souvenirs lointains lentement s'élever, au bruit des carillons qui chantent dans la brume. Bienheureuse la cloche au gosier vigoureux, qui, malgré sa vieillesse alerte et bien portante, jette fidèlement son cri religieux, ainsi qu'un vieux soldat qui veille sous la tente. Moi, mon âme est fêlée, et lorsqu'en ses ennuis, elle veut de ses chants peupler l'air froid des nuits, il arrive souvent que sa voix affaiblit. Semble le râle épais d'un blessé qu'on oublie, au bord d'un lac de sang, sous un grand tas de morts, et qui meurt sans bouger, dans d'immenses efforts.
«
Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier
sur Radio Boomerang 89.7 FM.